RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en rediffusion avant la prochaine saison et nous partons aux États-Unis où des milliers d'enfants et d'adolescents sont arrêtés chaque mois. Les Américains les surnomment les Dreamers, les rêveurs. Ils voyagent seuls, sans leurs parents. Ces adolescents fuient l'extrême violence des gangs d'Amérique centrale, du Honduras et du Salvador notamment. Leur objectif, c'est de franchir la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis et pour y arriver, ils vont devoir parcourir des milliers de kilomètres dans un train de marchandises. Ensuite, pour passer aux États-Unis, ils deviennent les victimes des cartels de drogue mexicains. Ces jeunes, les filles notamment, disparaissent par centaines entre leurs mains. Une route extrêmement dangereuse, alors qu'aux États-Unis, la campagne électorale pour la présidentielle en novembre prochain pourrait décider de l'avenir des 11 millions de latino-américains clandestins qui y vivent. Alors, quelle place les États-Unis vont-ils donner à ces jeunes migrants qui eux aussi rêvent d'être rapidement régularisés sur la route des adolescents migrants du Mexique aux États-Unis, un grand reportage de François Cardona.
Leur route commence tout au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala dans les Chiapas. C'est d'ici que part le train de marchandises qui remonte vers le nord, vers les États-Unis. Les migrants l'ont surnommé la bête. Les adolescents ont quitté le Salvador, le Honduras, le Guatemala quelques jours plus tôt. Ils sont venus à pied ou en bus pour rejoindre Palenque, une petite ville installée le long de la voie de chemin de fer. Le train de marchandises, c'est le moyen de transport le plus rapide et le moins cher, le plus dangereux aussi. Juan, 15 ans, vient d'arriver à Palenque. Il a laissé sa maman et son petit frère au Honduras pour tenter l'aventure jusqu'aux États-Unis.
Chez moi, au Honduras, il y a une guerre de territoire entre les gangs. Ils tuent des familles, des enfants. Eux, ce qui leur plaît, c'est tuer. Honnêtement, j'ai trop peur de prendre le train. Mais je vais le faire, j'ai pas le choix. Pas question que je revienne au Honduras. J'ai plus rien à faire là-bas. Ça me fait flipper de monter sur le train en marche. Il est trop grand, trop rapide.
Juan a moins de 2 euros en poche. Il veut rejoindre une tante qui habite aux États-Unis, à près de 3000 km de là.
Mon rêve, c'est de pouvoir aider ma famille, avoir un travail, économiser le plus possible. Et un jour, revenir au Honduras pour avoir une vie tranquille.
Normal, tranquille.
Avec Juan, ce soir, sur le bord de la voie ferrée, il y a Anthony, 15 ans lui aussi. Menacé par les gangs de son village, il a décidé de fuir le Honduras pour les États-Unis.
Moi, je pense surtout au train, les gars. J'espère que ça ne va pas être trop dangereux. Surtout, je sais qu'on va devoir rester éveillé tout le temps quand on sera dessus. Parce que si tu dors, tu tombes. Et là, il va vraiment falloir qu'on soit bien éveillé tout le temps.
Les adolescents se sont rassemblés autour des migrants les plus âgés. Hector, 25 ans, a déjà pris le train plus de 4 fois pour aller jusqu'aux États-Unis, dont il a été expulsé à 2 reprises déjà.
Le train, faut jamais que tu l'attrapes de face. Si le train part par là, par exemple, tu l'attrapes avec ta main droite et tu cours à côté comme ça. Que si tu tombes, le train t'aspire et te passe dessus. Et là, t'es mort. Et là, tu poses un premier pied, mais surtout, ne lâche jamais, jamais. Parce que si tu vois des mecs qui montent sur le train avec des machettes et des pistolets, toi, tu te couches sur le sol et tu restes immobile et tu ne bouges pas. Tu leur files toutes les affaires, toutes, n'hésite même pas. Tu leur donnes son sac à dos. Surtout, tu ne fais pas le fier, tu ne résistes pas. Sinon, ils vont te buter direct.
Malgré les risques, ces 3 dernières années, plusieurs dizaines de milliers d'adolescents sont passés par la région des Chiapas. Après 6 heures d'attente, le train arrive enfin. La nuit est tombée. La peur se lit dans les regards des adolescents. L'hésitation avant le saut qui peut coûter la vie. Un à un, les adolescents arrivent à se hisser sur les wagons de marchandises et le train s'éloigne. Dans les gares suivantes, aucune trace ni de Juan, ni d'Anthony, ni de leurs amis. Quelques jours plus tard, nous apprenons qu'ils ont été arrêtés par la police migratoire mexicaine à bord du train. Depuis un an, tout le sud du Mexique est sous tension. Les routes sont contrôlées par la police et l'armée. Les États-Unis ont exigé des autorités mexicaines qu'elles interceptent les migrants. L'année dernière, 11 000 enfants et adolescents qui voyageaient seuls ont été arrêtés au Mexique. Un record. Les adolescents sont placés dans des centres de détention provisoires pour mineurs, aujourd'hui bondés. Thomas Vargas, le directeur de l'un de ces centres, reçoit 10 à 15 nouveaux adolescents par semaine. À l'intérieur, il y a des caméras de surveillance dans tous les coins, des dessins accrochés au mur, comme dans une école primaire, avec un dortoir.
Non, il ne s'agit pas d'une prison. On s'occupe bien des enfants ici, on les traite chaleureusement. On ne les traite jamais comme des délinquants, ils n'ont commis aucun crime. Ils ne peuvent pas sortir pour leur propre sécurité. Bien sûr, nous avons un système de sécurité dans tout l'établissement. C'est pour être sûr que le séjour des enfants se passe bien, ça rassure les parents.
Los papás tienen que estar tranquilos en el tiempo que están aquí.
Pour échapper à la police mexicaine, les jeunes migrants sont contraints de s'adresser aux réseaux criminels, aux cartels de drogue pour arriver jusqu'aux États-Unis. Tout au nord du Mexique, à la frontière, la région de Nogales est l'une des portes d'entrée illégales pour les États-Unis. Les cartels de drogue s'y livrent une guerre sans merci. Le trafic d'êtres humains est devenu très rentable.
Salut mec, je veux que tu prépares tout le monde, ok? Préparez-vous à partir, j'arrive.
Daniel est passeur de migrants. Sa spécialité, ce sont les adolescents. Il travaille depuis 6 ans pour le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants du Mexique.
Le patron ne me paye qu'une fois les illégaux arrivés à destination aux États-Unis. Pour chaque migrant, je touche 1 000 $. Une fois que les enfants ont retrouvé leurs parents, alors le patron me donne mon fric. On utilise les mêmes chemins pour les faire passer de l'autre côté. Et c'est le patron qui décide quand passe la drogue et quand passent les illégaux. Souvent, la priorité, c'est la drogue. Alors impossible de passer un seul migrant, sous peine de mort. Les illégaux, ils attirent l'attention, ils laissent des déchets derrière eux. C'est un bon business. Mais les poulets, c'est comme ça qu'on appelle les illégaux, ben les poulets, ils rapportent au moins que la drogue. La marijuana vaut beaucoup plus.
Ce soir, Daniel devra faire passer 2 mineurs pour les États-Unis. Juan et Jesús, son cousin, ils ont 15 ans, leurs parents ont payé le cartel pour qu'ils rejoignent leur tante aux États-Unis.
On veut travailler. Là où on habite, il n'y a presque pas de travail. De l'autre côté, on fera n'importe quel boulot. Tout est bon pour gagner de l'argent, vous savez.
Daniel a installé les adolescents à l'arrière de sa voiture. La nuit est tombée. Après plus d'une heure de route, Daniel et les adolescents vont devoir marcher plus d'une heure dans le désert, sans lumière.
Venez que je vous explique. Ici, il faut faire attention aux caméras qui sont là-bas. Alors on va passer par là, dissimuler. Il faut qu'on arrive à un endroit que j'ai repéré, où on restera à observer si les flics américains ne nous attendent pas de l'autre côté. Allez, on y va.
Daniel guide les adolescents vers un endroit de la barrière où l'on peut se faufiler pour passer de l'autre côté. Il craint que des hommes de main des États, le cartel concurrent, ne les repère dans la zone. Il fait froid, à peine 2 degrés. Les deux adolescents savent qu'ils doivent continuer d'avancer.
C'est tendu. J'ai peur, franchement. J'espère qu'on va y arriver tous les deux. Et que le monsieur, avec nous, va y arriver aussi. Tous ensemble.
La barrière est maintenant à moins d'un kilomètre, mais Daniel, le passeur, s'est arrêté. Il est inquiet. Il veut continuer seul.
Les gars, on va devoir continuer seul, parce qu'il y a des mecs du cartel concurrent là-bas. Et s'ils nous voient ensemble, ils vont nous buter. On va aller voir si on peut passer quand même, mais c'est chaud. Allez, on continue.
On va voir ce qui se passe. Ok?
Le passeur et les adolescents s'éloignent et disparaissent dans l'obscurité. Daniel, le passeur, ne donnera plus jamais de nouvelles. Et nous ne saurons pas ce que sont devenus ses deux jeunes cousins. Ces 10 dernières années, des milliers de migrants se sont perdus dans le désert à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais personne ne sait exactement combien. Les États frontaliers ne comptabilisent pas les cadavres retrouvés dans le désert, comme dans le Texas. Dans le petit bureau d'Eduardo Canales, des dizaines de dossiers s'empilent dans tous les coins. Ce militant des droits de l'homme rassemble des informations, des photos sur les corps retrouvés dans ce désert, transformé en cimetière.
Voilà ce qu'il en reste. Là, on a retrouvé que des restes du corps. C'est souvent comme ça. Là, regardez, il reste à peine le squelette, juste le crâne en fait. Et ce corps-là, les animaux avaient déjà commencé à le dévorer. Là, les photos montrent bien que ce corps-ci a passé beaucoup de temps dans le désert avant d'être découvert. Au moins la moitié des corps qu'on retrouve dans le désert ne sont jamais identifiés. Des corps inconnus. Les familles sont désespérées. Elles aimeraient bien faire le deuil. Mais c'est impossible. Le pire, c'est pour les filles, celles qui sont presque des petites femmes. Souvent, les cartels les kidnappent pour abuser d'elles et elles disparaissent aussi.
Ces derniers mois, Eduardo Canales a recensé de plus en plus de cas de disparition de jeunes adolescentes alors qu'elles traversaient la frontière avec un passeur payé par leurs parents. C'est ce qui est arrivé à Anayel, 15 ans. Cela fait un mois que sa maman, Juana, n'a plus de nouvelles. Elle habite à Dallas, dans le Texas, depuis 10 ans, sans papier. Juana a payé un passeur pour que sa fille, restée au Mexique, vienne la rejoindre aux États-Unis, mais sa fille de 15 ans a disparu, sans laisser de traces.
Si j'avais des papiers, je serais allée chercher moi-même ma fille. Je n'aurais pas eu besoin de demander à un passeur. Et maintenant, je ne peux même pas me rendre sur place, là où elle a disparu. Sans papier, c'est impossible. La dernière photo que j'ai d'elle date de la fête des mères de l'an dernier. Elle me l'avait envoyée du Mexique. Les passeurs m'ont juste dit que la police migratoire avait arrêté ma fille. Je les ai appelés, j'ai demandé à tout le monde. Je n'ai toujours aucune nouvelle. J'ai payé 2000 dollars pourtant pour qu'elle traverse la frontière. Évidemment, ils ne m'ont jamais rendu l'argent.
Depuis son arrivée aux États-Unis, Juana, femme de chambre dans un hôtel de Dallas, a eu deux filles. Elles sont nées aux États-Unis, elles sont pourtant illégales, elles aussi. Le droit du sol ne s'applique pas aux enfants de clandestins. Jamil est 9 ans, sait que sa grande sœur a disparu.
Moi, je suis triste parce que je voulais jouer avec elle. Je voulais m'endormir avec elle aussi. J'aimerais tellement voir ma grande sœur. Elle s'est perdue. J'espère qu'on va la retrouver.
Sa grande sœur Anayel avait franchi la frontière mexicaine à Ciudad Juárez, l'une des villes les plus dangereuses au monde, tenue par les cartels de drogue. Antonio est passeur de migrants à Ciudad Juárez. Il travaille comme indépendant. Il a accepté de témoigner pour dénoncer les pratiques des cartels de drogue, ses concurrents.
Quand les enfants migrants arrivent ici, ils en obligent beaucoup à se prostituer. Le gang qui gère ça ici, les gens ont même peur de dire son nom. Mais on les appelle les Aztèques. C'est eux qui gèrent le trafic d'illégaux dans la zone. Et je ne voudrais pas avoir de problème avec eux. Ils achètent et vendent des enfants, même des petits garçons, mais surtout des filles, malheureusement. Ceux qui veulent passer la frontière sans leur aide, ceux-là, ils les battent à mort. C'est horrible à voir. Tout ça au nez et à la barbe des flics américains là-bas qui patrouillent tout le temps. Et n'oubliez pas que ces gangs, ils font du trafic de drogue, ils trafiquent des êtres humains et de la drogue.
Impossible de savoir combien de migrants ont disparu à Ciudad Juárez, des migrantes que leurs parents n'oseront jamais venir récupérer, des exilés en détresse qui tombent dans les mains des cartels en pensant échapper à la police des frontières américaines. Car de l'autre côté du mur qui sépare le Mexique des États-Unis, les patrouilles sont incessantes. Ce soir, l'officier américain Calvillo de la police des frontières est chargé de la surveillance de la barrière, juste de l'autre côté de Ciudad Juárez.
Ce soir, ça va, ça vient. Il y a pas mal de trafic, ça ne s'arrête jamais en fait. Le problème, c'est qu'ils ont des maisons près de la barrière qui leur servent de planque. S'ils arrivent à franchir rapidement la frontière, ils peuvent aller s'y cacher et là, on est battu. La barrière, en fait, ne sert qu'à ralentir ceux qui veulent venir ici. Ça nous permet à peine de gagner un peu de temps et d'arriver à les interpeller. Là-dessous, il y a une longue plaque de métal qui va très profond. C'est pour éviter les tunnels. Mais bon, ils finiront toujours par passer. Mais ça les ralentit quand même.
Une barrière qui ne sert qu'à ralentir les passeurs et les migrants, mais dont la construction a coûté plus de 4 millions de dollars le kilomètre. Les États-Unis dépensent chaque année plus de 4 milliards de dollars pour empêcher les migrants d'entrer. Alors les cartels ont déplacé les routes dans le désert pour venir en aide à la police migratoire. Des milices privées d'extrême droite se sont créées. Leur mission, intercepter les migrants.
Observateur à un camp de base, le véhicule se dirige vers l'ouest.
Bien reçu, on va avoir le véhicule en visuel.
Trois fois par an, en Arizona, à la frontière avec le Mexique, la milice de Tim Foley se mobilise. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine, entrés militaires et fusils d'assaut à l'épaule. Ils patrouillent dans le désert. Certains sont vétérans, mais la plupart n'ont jamais fait l'armée, comme Aaron, chargé d'aller occuper un point stratégique, un poste d'observation utilisé par les guetteurs des cartels.
Backpacks. Some of the stuff they carry. And look down here in this hole.
Regardez, ils ont laissé des sacs à dos. Et là, dans ce trou, il y en a encore davantage. Des couvertures, des bouteilles d'eau, d'autres sacs. Ils se cachent ici et personne ne peut les voir. La police migratoire ne vient jamais jusqu'ici. Les sommets de ces montagnes forment un véritable réseau de postes d'observation. C'est dingue. Mais il suffira au gouvernement de faire la même chose que nous pour les en empêcher.
La milice n'a pas le droit d'interpeller les migrants. Leurs armes ne servent qu'à leur faire peur, à ralentir leur progression pour les pousser dans les zones surveillées par la police. Tim Foley est un ancien ouvrier du bâtiment, ruiné par la crise économique aux États-Unis. Il a créé cette milice privée il y a 4 ans.
Si on en arrive là, c'est parce que c'est l'enfer. Les immigrés sont partout. Même si le gouvernement dit qu'il n'occupe que les emplois que les Américains ne veulent pas, les immigrés le font quand même, et pour moins cher. Les salaires ont chuté. Alors avec la crise, j'ai tout perdu. Ma maison, ma voiture, tout. Je suis venu ici et j'ai créé ce groupe. J'ai décidé de jouer avec eux. Tout ça, c'est un grand jeu. Et c'est eux qui fixent les règles. Et nous, on a décidé de jouer avec eux.
It's a big game, their rules. We're just trying to play along with them.
En 10 ans, plus d'une dizaine de milices comme celle-ci ont été créées le long de la frontière, symptôme d'une société américaine qui se radicalise. L'année dernière, les États-Unis ont renvoyé dans leur pays plus de 230 000 étrangers illégaux. Les adolescents migrants continuent d'affluer pourtant, malgré les dangers. Sur la route des adolescents migrants, grand reportage François Cardona, réalisation Eva Moschinski.
Grand reportage à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.
Her men, and that's how the story.